Vous écoutez Stade Bleu sur France Bleu. Le Stade Bleu, Gérald Paris.
Bonsoir et bienvenue dans Stade Bleu. Il y aura du football bien sûr ce soir avec un retour sur les deux premières rencontres de la 11e journée de Ligue 1. D'abord la victoire, et ça c'était hier soir, de Lens à Toulouse, 2-0. Nous entendrons le coach toulousain Alain Casanova.
Il y a sûrement une part de responsabilité générale, aussi bien de la part des joueurs que de la mienne. Je pense qu'il n'y a aucun match de Ligue 1 qui est facile. Il faut l'aborder d'une autre manière et il nous reste du travail par rapport à ça.
Et puis on reviendra bien sûr également sur la victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi, 3-0 sur Bordeaux. Analyse de Raphaël Raymond, journaliste à l'équipe. Enfin, on partira à Bastia à moins d'une heure du choc face à Monaco. Il y a également du rugby aujourd'hui. C'est la deuxième journée de la Grande Coupe d'Europe. Match en cours d'ailleurs entre Montpellier et Glasgow. On joindra Benjamin Dallaire dans ce stade bleu. Les Héraultaises sont légèrement menées et on prendra des nouvelles de Toulon et de Toulouse qui se sont également imposé cet après-midi. Le sport, c'est aussi la reprise pour le volet féminin. On en parlera avec un coup de projecteur sur une des stars de ce championnat, Yukiko Ebata. Elle est japonaise et elle joue à Cannes.
Je m'appelle Yukiko Ebata. Je suis contente de jouer à Cannes.
Portrait dans ce stade bleu signé Xavier Monferrand. Cette saison, on partira en Autriche à Zolden. En ski, c'est la Coupe du Monde Dames. Le slalom géant, on fera le point avec Richard Vivion. Enfin, on prendra des nouvelles du Français Sébastien Ogier au Rallye d'Espagne en Catalogne. Allez, ce soir, c'est parti. Stade bleu, c'est avec Yanis, Wissam, mais également Gérald Paris.
Stade bleu, le football.
Allez, on commence donc par les derniers résultats de cette 11e journée de Ligue 1. Le match de l'après-midi, c'était bien sûr Paris Saint-Germain, Bordeaux au Parc des Princes. Une rencontre à 17h qui s'est également soldée par une victoire parisienne 3-0. Le scénario, c'est avec Franck Ballanger.
Le Paris Saint-Germain pointe à 4 longueurs de l'OM avant le déplacement des Marseillais à Lyon demain. Ce soir, les Parisiens ont assez facilement dominé Bordeaux. 3-0, deux buts de Lucas, le Brésilien, deux buts sur pénalty dans les arrêts de jeu de la première période. Et au retour des vestiaires à la 50e minute de jeu, Lucas qui rejoint donc Zlatan Ibrahimovic en tête des buteurs du PSG avec 5 réalisations. Le troisième but a été inscrit par Ezequiel Lavezzi, l'Argentin, à la 81e minute. Gros souci quand même pour Laurent Blanc. L'entraîneur du Paris Saint-Germain sera privé de Thiago Motta, son maître à jouer, pour la réception de Marseille le 9 novembre prochain. L'ancien joueur de l'Inter Milan a reçu un carton jaune qui le privera du choc. Grégory Van Der Wiel sera également absent. Le Néerlandais, lui, a été expulsé pour un tacle par derrière sur Wahbi Khazri dès la 28e minute de jeu. 3-0 pour le PSG, mais un carton rouge partout puisque André Poco a été exclu côté bordelais pour un tacle au niveau des genoux de Marco Verratti à la 37e minute. Après un succès au Stade de France contre Lens le week-end dernier et un autre à Nicosie mardi soir en Ligue des Champions, Paris enchaîne donc un troisième succès consécutif pour la première fois de la saison.
Franck Ballanger, Paris revient temporairement, Franck l'a dit, à 4 points de Marseille, le leader. Bonsoir Raphaël Raymond.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'équipe. Alors on va dire que c'est vrai, Paris reste invaincu et enchaîne une troisième victoire consécutive. Mais allez, on va chipoter, c'est toujours pas du grand cru, hein.
L'acteur principal du match a été comme le week-end dernier, enfin c'était vendredi, hein, mais le match au Stade de France, Lens PSG, c'est l'arbitre. Sauf que là, l'arbitre, il a été excellent. C'est celui qu'on a le plus vu sur le terrain, l'arbitrage de Toric Champron. On rappelle que il y a une semaine, l'arbitrage de M. Rainville avait été très critiqué jusque dans les plus hautes sphères du football français, puisque le président de la Ligue avait cru bon de s'excuser auprès des présidents de clubs de l'arbitrage de M. Rainville. Et là, Tony Chaperon était excellent. C'est un match qui a surtout été marqué, on l'a dit, hein, par 2 cartons rouges, 2 pénaltys. Donc voilà, c'est un succès large pour le PSG qui n'a pas réglé tous ses problèmes. Vu la passe difficile dans laquelle se trouvait le PSG et Laurent Blanc, je pense que les Parisiens ne vont pas chipoter. Ils vont pas chipoter, c'est quand même plutôt pas mal.
On prend. Restez avec nous, Raphaël Raymond, puisqu'on va parler aussi de cette défaite de Toulouse à la maison face à Lens hier soir 2-0. C'est une des surprises de cette 11e journée de Ligue 1. Écoutez la réaction d'Alain Casanova, le coach du TFC.
On est vraiment freiné dans les intentions qui étaient les nôtres, dans les objectifs qui étaient les nôtres par rapport à un calendrier qui pouvait nous permettre de lutter pour être dans la première partie de tableau. Aujourd'hui, face à une équipe qui était en difficulté, qui était dernière. Perdre à domicile, je pense que c'est un coup de frein, oui. Là, on a l'impression qu'il y a un peu de suffisance, on a l'impression qu'il y a un peu de manque d'envie, alors que bon, c'est qu'il faut trouver les espaces, il faut être juste, il faut trouver les décalages, il faut trouver voilà, la passe verticale qui coupe l'adversaire et qui le désorganise. Mais on a pas su le faire. Il n'y a aucun match de Ligue 1 qui est facile. Et affronter Paris, Marseille, Lyon ou Monaco, je sais que la motivation sera là. Par contre, aborder des rencontres contre des adversaires qui sont plus dans la difficulté, qui ne sont pas très bien classés et qui paraissent une proie assez facile, il faut l'aborder d'une autre manière et il nous reste du travail par rapport à ça.
Alain Casanova, l'entraîneur toulousain, très lucide, hein, enfin je crois. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Alain Casanova, Raphaël Raymond ?
Mais oui, je partage son analyse. Maintenant, ce qui est plus surprenant, c'est que quand on regarde son effectif, c'est qu'il ait pu à un moment donné rêver de... Il a parlé de la première partie de tableau, mais j'espère qu'il n'a pas rêvé d'être européen, parce qu'il n'est clairement pas armé, le pauvre Casanova, pour avoir une équipe qui va lutter avec les meilleurs. Toulouse, c'est un club qui est bien structuré, c'est un club qui fait du bon boulot, qui forme des jeunes, qui arrive à faire quelques coups grâce à des recruteurs, mais bon, Toulouse a les moyens de Toulouse, c'est-à-dire c'est une équipe qui est... Oui, ils vont finir... C'est le football moderne, ça. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu les droits télé, qui font une part importante des budgets, pour certains, c'est 50-60% des budgets des clubs, on entend des objectifs finir dans la première partie du tableau, 9e, 10e. C'est des objectifs qu'on n'entendait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on voulait jouer le titre, on voulait être européen ou on voulait se maintenir. Mais maintenant, le ventre mou est un objectif, c'est assez français. Bon, c'est... Toulouse fera peut-être l'exploit de finir 8e et puis personne s'en souviendra dans 20 ans. En tout cas, moi, Toulouse, j'ai vu contre Marseille, c'est une équipe moyenne de Ligue 1.
C'est ça, il y a eu pas mal de difficultés. Merci en tout cas, Raphaël Raymond, pour votre analyse, journaliste à l'équipe. Merci Raphaël, bonne soirée. On vous laisse retourner à vos papiers, bien sûr. La suite de cette 11e journée, c'est ce soir, hein, très vite, hein, c'est à 20h, puisqu'on va se pencher maintenant sur la rencontre Bastia-Monaco. On part tout de suite dans les tribunes de Furiani pour rejoindre Jean Prunette. Bonsoir Jean.
Bonsoir Gérald.
Alors on est une semaine après la victoire des Bastianis, une semaine aussi après les débordements, hein, les fameux débordements qui ont émaillé cette rencontre. Ce soir c'est Monaco à Furiani. Quelle ambiance cette semaine finalement au club, Jean Prunette, hein?
Au club on a tout fait évidemment pour que l'extra sportif, tout ce qui a été dit, écrit, tout ce qui était presse parlé, tous les échos, on a essayé de protéger les joueurs, même si une fois qu'ils sont rentrés chez eux et puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les joueurs évidemment peuvent avoir des retours, mais on n'en a pas trop parlé, surtout qu'avec Claude Makélélé, il y a une consigne, on ne sort pas du rectangle vert, on reste concentré sur la préparation de ce match de Monaco. C'est le message qu'il a voulu faire passer, qu'il a fait passer pour éteindre de suite tout incendie ou toute perturbation, on va dire, mentale de ce match tout aussi important contre l'AS Monaco. C'est plutôt tout autour, évidemment, hein, qu'on a parlé de tout ce qui s'est passé du côté de Nice et surtout de tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a une chose qui vraiment n'a pas été acceptée ici, c'est qu'on essaye de renverser la machine, on essaye de renverser les événements et qu'on fasse de Jean-Louis Lec et de Sandra Pau et de l'équipe bastiaise les seuls coupables, ou en tout cas plus coupables des débordements qu'il y a eu à Nice que les véritables auteurs des débordements, c'est-à-dire les supporters eux-mêmes, voire plus grave, puisque des images ont été là pour en attester, des coups qui ont été portés, pas que par des supporters, mais aussi par des responsables de la sécurité de Nice, à deux joueurs de Bastia et même à Didier Tolo, l'adjoint de Claude Makélélé. Ouais, ouais. D'ailleurs, hier, une plainte a été déposée contre X, voilà, par les dirigeants Bastia.
C'est ce que j'allais dire, Bastia a déposé une plainte. Alors, ce soir, c'est Monaco, on vient le dire. Bastia Auxerre, c'est mercredi soir à 20h. C'est une 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Est-ce que, finalement, le club a joué sur tous les tableaux ou est-ce que, clairement, déjà, on sait que la Coupe de la Ligue, ça sera non?
Alors, la Coupe de la Ligue, pour les petits clubs, c'est toujours un grand et beau bol d'air. En plus, quand vous avez l'avantage de tirer un club de Ligue 2 et à domicile, donc passer un tour, pourquoi pas. Et puis, bon, les victoires ne sont pas légion, hein, ce début de saison pour Claude Makélélé, ouais, et sa bande. Même si ce sera un petit match de coupe, entre guillemets, contre une équipe de Ligue 2, gagner peut entretenir la foi et amener d'autres victoires, sachant qu'il y a Monaco ce soir, on ne sait pas encore ce que ça va donner après la victoire de Nice. Donc les Bastiais après Nice, s'ils arrivaient à faire un bon résultat contre Monaco, il y a Auxerre qui vient, ça pourrait faire une bonne petite semaine pour cette équipe de Claude Makélélé.
Ouais, une bonne petite dynamique aussi. Merci Jean Prunette en direct du stade de Furiani pour France Bleu. Ce match Bastia-Monaco est à 20h. Allez, un mot de Ligue 2 pour refermer cette page football. Il y avait une rencontre de Ligue 2 cet après-midi entre Troyes et Dijon. Voici le score 1-0 pour Troyes qui remonte à la deuxième place de la Ligue 2. Dijon reste en tête. Et puis, allez, un autre score. Ça se passe actuellement, c'est en Espagne. C'est le fameux Classico entre le Real Madrid et Barcelone. Le score 2-1. Les Barcelonais avaient pourtant ouvert la marque à la quatrième minute avec Neymar. Égalisation sur pénalty de Ronaldo et Pepe pour un deuxième but madrilène à la 51e minute. Et on est à la 59e minute. On en reparle en détail demain soir de ce Madrid-Barcelone. Le rugby à présent avec trois clubs français engagés dans la grande Coupe d'Europe. On va commencer d'ailleurs par le match en cours. C'est Montpellier-Glasgow. On retrouve tout de suite à Montpellier pour France Bleu Benjamin Dallaire. Tout à l'heure, à mon dernier pointage, les Montpellierains étaient menés. Ça donne quoi à présent ?
Eh ben c'est toujours le cas en fait. Hein. Les joueurs sont en train là de revenir sur la pelouse et Glasgow mène 9-6 dans cette première période. Finalement, on a assisté à une bataille de pénalités. Hein. Finn Russell qui a tapé deux pénalités convaincantes dans les 10 premières minutes. Et puis ensuite, réduction du score de Benoît Payoc, toujours sur pénalité. Puis une nouvelle pénalité qui a redonné eh bien, un avantage de 6 points aux Écossais. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment difficile côté Montpellierain. On a du mal à reconnaître l'équipe de Fabien Galthié, tant ils sont tétanisés probablement par l'enjeu. Hein, une victoire obligatoire pour eux pour espérer eh bien, conserver des chances de qualification. Tout reste à faire en tout cas pour les Montpellierains dans cette deuxième période parce qu'ils n'ont rien montré dans la première.
Juste un dernier mot, combien de spectateurs pour cette rencontre Benjamin?
Alors là vous me posez une jolie colle, vous me posez une très belle colle. Ce que je peux vous dire c'est que c'est quand même quasiment plein ici dans l'Altrad Stadium de Montpellier, même si eh bien, pour l'instant en tout cas les spectateurs restent un petit peu sur leur faim parce qu'ils n'ont pas vu grand chose en termes rugbystiques dans cette première mi-temps. Un petit fait de jeu quand même à vous signaler, la sortie sur civière de Tommy Seymour, l'ailier de Glasgow qui apparemment en tout cas a eu une sérieuse blessure puisque le jeu s'est arrêté quasiment 8 à 10 minutes pendant la première période.
Merci en tout cas Benjamin Dallaire en direct de Montpellier pour France Bleu pour ce Montpellier-Glasgow. Le prochain match pour les Héraultais ce sera à La Rochelle le 1er novembre. Une rencontre la 10e journée du top 14. La Rochelle qui au passage a battu hier Bayonne en challenge européen. Le score 25-13. Les deux autres matchs au programme cet après-midi de cette grande Coupe d'Europe, c'était Basse-Toulouse. Le Stade toulousain est allé s'imposer de peu, mais ça gagne quand même 21-19 pour Toulouse qui reprend décidément pas mal de couleurs depuis le début de la saison. Et puis, en début d'après-midi, c'est un test réussi pour Toulon. Le champion d'Europe jouait sur les terres de l'Ulster et le RCT s'est imposé 23-13. Laurent Blanchard, vous êtes journaliste à la Provence. Vous avez suivi cette rencontre. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on peut parler, je crois, de performance de Toulon cet après-midi sur la pelouse de l'Ulster, non ?
Ben oui, c'est le Toulon niveau Coupe d'Europe hein, qu'on a vu ce soir. Le Toulon qui a dominé la compétition durant les deux dernières saisons. On a le sentiment que dès que la Coupe d'Europe se profile, cette équipe de Toulon se transcende, devient une bête féroce, prête à sauter sur n'importe quel adversaire. Et ça s'est vu encore aujourd'hui. L'équipe de Toulon n'a laissé aucune chance à son adversaire. À la gorge et voilà, donc cette équipe de Toulon est impressionnée et elle est encore en mesure de conserver son titre à l'issue de cette saison.
23-13, ça c'est le score final. 16-3, c'était le score à la mi-temps. Toulon qui a été aidé par le vent en première mi-temps.
Oui, c'est une condition qui peut être soulignée, mais ce n'est pas la seule condition qui peut mettre en évidence. Hein. Moi, je traite davantage l'abnégation de Toulon dans la conquête, au niveau de la conquête. Toulon s'appuie sur une grosse mêlée à nouveau. C'est un domaine qui est essentiel pour sortir de ce match avec un résultat favorable. Et donc, toute la semaine, l'équipe de Toulon s'est appuyée à travailler sur ce domaine-là et elle appliquait à la lettre les règles qu'elle avait dictées à l'approche de ce match. Donc, une grosse conquête, une mêlée solide et Toulon donc a écœuré son adversaire.
Laurent Blanchard, un dernier mot, juste pour dire que Gito est blessé, Fernandez Lobé aussi. Oui. Est-ce que c'est grave ou pas?
on n'a pas trop de défondation à l'heure où je vous parle. C'est pas anodin, c'est moins grave pour Guito que pour Juan Fernandez Lobé. Des examens complémentaires seront pratiqués assez rapidement. Mais voilà, donc il n'y a pas trop d'informations officielles qui sont pour l'instant divulguées.
En tout cas, à suivre. Merci Laurent Blanchard, journaliste à la Provence. Un rappel, le score de cette Ulster Toulon, 23-13. Cette deuxième journée de Coupe d'Europe se termine demain avec Castres, Leinster, Trévise, Racing Métro et Clermont, de son côté, recevra Sale. Une rencontre à 16h15.
Le Stade Bleu, Gérald Paris.
En volleyball, c'est reparti pour le championnat féminin. Ce week-end, les 12 équipes de la Ligue se retrouvent à Saint-Dié-des-Vosges pour l'Open féminin. En début d'après-midi, on notera que le Canet a battu Hainaut 3-7-0. Et puis les championnes de France en titre, Cannes, se sont imposées il y a quelques minutes 3-7-1 sur Paris-Saint-Cloud. Arrêtons-nous justement sur cette équipe de Cannes qui a recruté une véritable star japonaise pour cette nouvelle saison. Elle s'appelle Yukiko Ebata. Les présentations, c'est avec Xavier Monferrand.
C'est une jeune femme très discrète avec un sourire dans la voix. Yukiko Ebata n'a connu qu'un club à Itachinaka. Aujourd'hui, elle part pour la première fois du Japon, direction Cannes et la Croisette. Yukiko ne parle encore que japonais, mais ses coéquipières lui ont déjà soufflé quelques mots en français.
Je m'appelle Yukiko Ebata. Je suis contente de jouer à Cannes.
Avec 104 sélections en équipe du Japon à seulement 24 ans, Yukiko Ebata a remporté la médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Londres. Et le RC Cannes a réalisé un tour de force en la recrutant, explique la présidente Annie Courtade.
Pour nous, c'était complètement inaccessible. Et puis finalement, on a appris par son manager que le club qu'elle voulait choisir, c'était Cannes ou rien d'autre. Alors vous pensez que là, on est tombé de notre chaise. Hein.
Comme en atteste le célèbre dessin animé Jeanne et Serge, le volley est un sport national au Japon et Yukiko Ebata n'est pas n'importe qui là-bas, raconte la capitaine du RC Cannes, Victoria Rava.
C'est une des joueuses la plus importante de l'équipe nationale et là, quand elle est arrivée, elle était suivie par la télé japonaise. Nous, même si on a tellement gagné en France et même en Europe, je veux dire que c'est pas le même monde, quoi.
Alors que Victoria Rava entame la dernière saison de sa carrière, Cannes a peut-être trouvé en Yukiko Ebata sa nouvelle égérie. Cannes, Xavier Monferrand, France Bleu Azur pour France Info.
Merci Xavier pour France Bleu également. En ski, la saison reprend avec aujourd'hui le slalom géant de la Coupe du Monde Dames en Autriche, c'est à Zolden. Bonsoir Richard Vivion.
Bonsoir.
Vous l'avez suivi, Gérald. Allez-y, allez-y, franchement, Richard.
Bonsoir, Gérald.
Vous l'avez.
Ah, je me suis arrêté au milieu.
C'est le trou de mémoire mortel. Vous l'avez suivi pour France Bleu, ce slalom.
J'étais sur Jeanne et Serge, pardon.
Ah, voilà, on bloque tout de suite. Il y avait une Française, c'est Tessa Worley. Elle était de la partie. Aujourd'hui, elle était de retour de blessure. Comment ça s'est passé, justement?
Pas trop mal, allez, on va dire pas trop mal pour Tessa Worley. 10 mois d'absence pour la skieuse du Grand Bornand, championne du monde en titre hein, du slalom géant. 10 mois d'absence à raison d'une blessure au genou, rupture des ligaments croisés, c'est la blessure des skieurs. Tessa Worley donc faisait son grand retour à la compétition aujourd'hui à Zolden. Elle a longtemps hésité à venir ici parce qu'elle s'estimait peut-être pas tout à fait prête. Et puis, dès la première manche, on a eu la réponse. Tessa Worley a bien retrouvé son meilleur niveau. Troisième chrono sur le premier tracé. Après, le second était un petit peu plus compliqué pour elle, pour un résultat final. Une septième place dans ce slalom géant de Zolden. Septième, c'est très bien. Ici, à Zolden, elle n'a jamais vraiment aimé cette piste. Son meilleur résultat, c'était une quatrième place. Elle remontait à 2011, l'année dernière, pour vous donner une référence, alors qu'elle était en pleine possession de ses moyens. Elle n'avait terminé que 21e, donc septième après 10 mois d'absence. Finalement, Tessa était heureuse.
Très, très contente. J'étais un peu stressée, mais comme à chaque course, et j'ai retrouvé assez rapidement mes petites habitudes, mon petit protocole avant course, on va dire. Et finalement, ces 10 mois, ils m'ont paru être courts parce que je me rappelais de tout. Maintenant, il y avait un petit peu la tension de le fait de reprendre, mais j'étais tellement focalisée sur ce que je devais faire. Et j'avais le bon état d'esprit et je crois que c'est ce qui a fait que ça a bien fonctionné aujourd'hui. C'est un excellent début. Et maintenant, j'ai vraiment envie de continuer le travail, les entraînements, trouver de la régularité, encore plus de confiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que de la confiance, il fallait en avoir pour envoyer comme les filles devant l'ont fait. Et puis, grappiller ces petites secondes et demie qui me manquent pour le sommet.
Alors Tessa Worley, justement, devant, ça a donné quoi? Quels sont les vainqueurs du jour, Richard Vivion, en deux mots?
Allez, en deux mots, ça sera deux, parce que Anna Fenninger et Michaela Schifrin, pas une, mais deux filles victorieuses ici à Zolden, toutes les deux ex aequo, l'Autrichienne et l'Américaine. Voilà pour les résultats. Puis on se donne rendez-vous demain. Cette fois, ce sont les messieurs qui vont prendre possession de la piste sur le glacier du Rettenbach, avec un certain Alexis Paturo dont tout le monde parle pour le gros globe, ce sacre hein, qui vient récompenser le meilleur skieur sur une saison. Lui reste très calme, attention, il aura fort à faire avec notamment Ted Ligeti l'américain et Marcel Hirscher l'autrichien.
Merci Richard Vivion, une petite promesse à Richard d'ici demain, attention au vin chaud, on y va tout doucement, hein, ok?
Oui, surtout ce soir à Zolden, c'est très chaud.
À demain Richard Vivion, 19h26 sur France Bleu. Allez, on termine avec les sports mécaniques, c'est le Rallye d'Espagne, ça se passe en Catalogne pour Sébastien Ogier. Alors on va filer dans quelques instants en Espagne, rejoindre Gilles Gabelier qui a suivi justement ce rallye pour France Bleu. Pour l'instant, on peut dire, sans dévoiler ce qu'il va nous dire dans quelques instants, que ça se passe plutôt bien pour le pilote français, puisqu'il y a eu aujourd'hui 6 spéciales dans cette deuxième journée. Et à l'issue de ces 6 spéciales, eh bien, le français est plutôt bien passé. Est-ce que Gilles Gabelier est là? Où il est avec nous, Gilles, bonsoir.
Oui, bonsoir Gérald.
Alors j'étais en train de dire, pendant qu'on était en train de vous chercher dans les tuyaux, que ça se passait bien finalement pour l'instant pour le pilote français Ogier.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une deuxième étape qui aujourd'hui s'est disputée sous des températures estivales. Il faisait pratiquement 30 degrés sur la région de Salou. Mais Sébastien Ogier, pourtant, n'en a pas fait du tourisme. Il a simplement parfaitement géré le petit pécule qu'il avait acquis hier sur les spéciales terres. Donc aujourd'hui, c'était de l'asphalte. Il y avait 6 spéciales au menu. Yari Matiladvala, certes, en a remporté 4. Sébastien Ogier, lui, n'en a remporté qu'une. Mais Ogier, finalement, n'a perdu que 9 secondes sur son équipier. Il a parfaitement su gérer son avance. Il faut dire qu'Ogier partait derrière Latvala, donc il calquait un petit peu son allure sur les temps partiels de son équipier. Quand il fallait, il levait le pied. Sinon, parfois, justement, il accélère un petit peu pour ne pas trop céder terrain. Bref, ouais. Ogier, aujourd'hui, était en mode gestion. Ouais. Il a parfaitement géré. Il termine donc cette deuxième étape avec 27 secondes de retard sur Latvala. Il est dans la position idéale pour l'instant.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est de la gestion totale. On en termine peut-être avec le programme de demain. Ça commence à quelle heure et combien de kilomètres ?
Donc demain, ça commence, la première spéciale est à 7h30. Il reste 72 km chronométrés répartis en 4 épreuves spéciales. Donc le titre normalement pour Sébastien Ogier, s'il continue comme ça, le titre devrait être vers 13h demain, en début donc d'après-midi.
Ouais, sauf souci bien évidemment ou quoi que ce soit. Merci en tout cas Gilles Gabelier en direct justement du Rallye d'Espagne en Catalogne. Merci, bonne soirée, à demain pour un nouveau bilan sur ce rallye. Il est quasiment 19h29 sur France Bleu. On va vous rappeler tous les résultats de l'après-midi, car il y en a eu, et notamment en football. Le Paris Saint-Germain a battu Bordeaux cet après-midi sur le score de 3-0, avec 2 pénaltys et 2 cartons rouges hein, d'ailleurs dans cette rencontre un petit peu particulière. On en a parlé en début de Stade Bleu, puisque Lucas a marqué les 2 premiers pénaltys pour le Paris Saint-Germain et Lavezzi a marqué le 3e but. Il y a eu 2 cartons rouges également, avec Van Der Wiel qui était sorti du côté du PSG. Il y a d'autres rencontres également en cours, et là ça se passe en Espagne puisque c'est le Classico, on en a parlé, c'est le Real Madrid face au FC Barcelone. Eh bien, le score a priori n'a pas évolué pour l'instant, 2-1 selon mes tablettes, le Real Madrid mène face à Barcelone alors que les Barcelonais avaient ouvert la marque. Et puis il y a eu également du rugby cet après-midi et ça s'est plutôt bien passé pour Toulon face à l'Ulster sur la pelouse de l'Ulster, 23-13, victoire des Toulonnais. On notera également la victoire du Stade Toulouse à Basse, 21-19. Le match de Montpellier est en cours face à l'équipe de Glasgow. Demain reviendra bien sûr aux mêmes heures, 19h-19h30, et on parlera notamment de la route du Rhum. Un invité d'ailleurs pour demain soir, c'est Louis Burton, le Benjamin de la classe Imoca. Bonne soirée sur France Bleu, on se retrouve demain à 19h.
Stade Bleu, le week-end à 19h sur France Bleu.